9h du journal avec Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Le bond en avant de Guillaume Martin au classement général à l'issue de la 14e étape du Tour de France. Martin, dauphin du maillot jaune Pogacar.
J'avais plutôt dans l'idée de passer une journée tranquille dans le peloton et d'habitude on est un peu sur la défensive et cette année j'ai vraiment envie de pas m'embêter avec ça, prendre des risques quand je le veux et aujourd'hui ça semble payant.
Et victoire d'étape en solitaire du Néerlandais Mollema. Un coup de pression supplémentaire pour la vaccination obligatoire avant l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir. L'Académie de médecine recommande de vacciner dès l'âge de 12 ans. Jean-François Mettei de l'Académie de médecine dans un instant. Dans ce journal également, le feu vert du G20 à l'accord sur la taxation des multinationales. Et nous irons à Cannes avec deux films en compétition ce soir et Catherine Deneuve sur le tapis rouge. Le temps pour demain, nuageux au nord, du soleil au sud et le retour des orages par le sud-ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Un cran de plus vers la vaccination obligatoire pour tous. L'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie favorables à la vaccination obligatoire des 12 ans. C'est la 8e fois que l'Académie de médecine prend position depuis le début de la crise sanitaire. Un nouveau coup de pression aujourd'hui en plein débat sur la vaccination obligatoire. Et alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole lundi soir, Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé, est membre de l'Académie de médecine avec Cécilia Arbonin.
Il semble que la pédagogie s'épuise et qu'on a le choix entre deux formes d'obligation. Une obligation hypocrite, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner, mais vous ne pouvez aller ni au restaurant, ni dans les bars, ni dans les cafés, ni dans les cinémas, ni dans les théâtres, ni faire du sport, etc. Ou bien, une obligation claire et nette, c'est la position de l'Académie nationale de médecine. Bien sûr, les soignants, c'est un devoir moral, un devoir éthique, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Sur les ados, il semble que les quelques effets secondaires cardiaques soient bénins. J'ajoute qu'à partir de 12 ans, il est temps de faire comprendre aux adolescents qu'ils appartiennent à une communauté nationale, qu'ils doivent être solidaires et responsables. La rentrée scolaire est début septembre, il nous reste un mois et demi, et sauf à prendre le risque de refermer des classes, refermer des établissements et de compromettre la qualité de l'enseignement, je pense qu'il n'y a pas à discuter.
Jean-François Mattei avec Cécilia Arbonin. Ici, l'obligation vaccinale n'est pas encore décidée. Les vacances, en revanche, sont obligatoires pour beaucoup d'entre nous. Envie de repos, de rattraper le temps perdu malgré la crainte du variant Delta et une reprise de l'épidémie. Premier week-end de grand départ, avec beaucoup de monde sur les routes et un pic de 1142 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Ce qui est exceptionnel selon la sécurité routière. Beaucoup de monde également dans les gares et dans les trains, avec des touristes et des festivaliers à destination notamment d'Avignon. Reportage Morgane Guillaumard, France Bleu Vaucluse.
Une foule sort de la gare d'Avignon-Centre sous un grand soleil. Suzon et son père viennent de Metz. Ils profitent d'une semaine de congé pour venir au festival.
C'est chouette parce qu'en général, on y va tous les ans. L'année dernière, on n'a pas pu y aller, donc là, on est plutôt content de pouvoir revenir. On va regarder le planning, on a l'application sur le téléphone, donc on va s'organiser au fur et à mesure.
Un festival masqué à cause de la crise sanitaire, mais ça ne dérange pas Nicole, une autrice parisienne qui sort du train, une valise rouge à la main.
Ça fait un grand plaisir de revoir du monde déjà, et puis de revoir les remparts, puis de se dire que pendant une semaine, on ne va vivre que pour le théâtre. J'espère que malgré le masque, je vais oublier cet aspect sanitaire pour ne penser qu'au plaisir de se retrouver tous ensemble face à des spectacles.
Tous les voyageurs ne viennent pas pour le festival. Lionel, 38 ans, arrive avec sa famille en gare TGV depuis Paris pour quelques jours de vacances.
On vient à un mariage du côté de Aurel. Après, on va prolonger sur 3 jours du côté du Luberon. Et donc, c'est les premières vacances estivales. Ça fait du bien de retrouver le soleil, les cigales et puis la bonne humeur et malgré le contexte, et c'est plutôt appréciable.
La règle reste la même pour tous ceux qui arrivent à Avignon intramuros. Le port du masque est obligatoire de midi à 2h du matin.
Et puis ce drame aujourd'hui au centre commercial de Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Deux vendeurs d'une boutique Bouygues Télécom ont été poignardés. L'une des deux victimes, âgée de 18 ans, a été tuée. L'autre, âgée de 20 ans, est à l'hôpital dans un état grave. Les deux vendeurs ont été poignardés au niveau du cœur. Un homme a été interpellé. Il s'agirait d'un différend commercial. Le suspect, âgé lui de 62 ans, était selon une source policière mécontent de la surfacturation de son téléphone. La détresse d'un père français en grève de la faim au Japon, privé de voir ses enfants. Leur mère japonaise a enlevé leurs enfants, une petite fille et un petit garçon, âgés aujourd'hui de 4 et 6 ans, en cas de séparation. La garde partagée n'existe pas au Japon et le père, âgé de 39 ans, a entamé aujourd'hui à Tokyo une grève de la faim. L'homme est installé à l'entrée de la gare de Tokyo, près du nouveau stade olympique, à 2 semaines de l'ouverture des Jeux, en présence d'Emmanuel Macron. Tokyo, Karine Nishimura.
Vincent Fichot a 39 ans, 2 enfants franco-japonais dont il est sans nouvelles depuis le 10 août 2018, depuis que sa femme a quitté soudainement le domicile conjugal avec les 2 petits.
Aucun contact, j'ai pas un signe de vie.
À l'instar de nombreux autres pères ou mères de diverses nationalités dans la même situation, il se démène sur tous les fronts, en vain. Le système juridique japonais est tel qu'il tend à protéger le parent kidnappeur.
Les juges au Japon ne veulent rien entendre. J'ai rencontré le président Macron qui plaidait mon cas, ainsi que le cas d'autres parents français, auprès du Premier ministre japonais, qui n'en a rien fait.
La grève de la faim, il ne voit plus d'autres actions possibles dans l'immédiat.
On a tout essayé, point de vue institution, police, la France, l'Europe, l'ONU, le Japon. Et il ne me reste plus que ça à faire. Parce qu'envoyer des courriers au Japon qui restent sans réponse pendant des années, peut-être que ça aide à se donner bonne conscience, mais ça ne nous ramène pas nos enfants à la maison.
Et il est déterminé.
Donc j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes économies, j'ai perdu mon travail. À l'heure actuelle, il ne me reste plus qu'une chose, c'est moi, c'est 80 kilos. Et je les donnerai jusqu'au dernier gramme pour mes enfants.
Son but, que la France applique des sanctions diplomatiques à l'égard du Japon. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Plus de retour en arrière possible, explique Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Le G20 donne son accord pour un impôt minimum mondial d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales et notamment des géants du numérique. Cet après-midi à Venise, en Italie, les ministres des Finances du G20 ont donc approuvé ce texte qualifié d'historique sur une architecture fiscale internationale plus équitable. Rome, Xavier Sartre.
Ce n'est plus une surprise car le principe avait déjà été acté, mais l'accord sur un taux unique planétaire sur les bénéfices des multinationales est historique. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, affirme ainsi que c'est une révolution fiscale comme il y en a une par siècle. Certes, les économistes sont loin d'être unanimes sur les vertus et la portée d'une telle mesure, mais comme l'a souligné le ministre italien des Finances, Daniele Franco, hôte de la Réunion, c'est un grand pas en avant en matière de régulation fiscale.
Oui.
Nous avons conclu un accord important, très important, sur une architecture fiscale internationale plus stable et plus équitable, qui contribuera durant les prochaines années à stabiliser le système fiscal international. Il reste encore toutefois à convaincre 8 pays de l'OCDE qui n'en ont pas signé la déclaration à l'origine de cet accord de Venise. Il reste aussi à peaufiner les détails de la réforme en octobre lors d'une prochaine réunion du G20. Devront être ainsi précisés le premier pilier qui consiste à répartir les fruits de la taxe entre les pays ayant droit. Et le deuxième pilier, le taux d'impôt effectif minimum sur les bénéfices. Il devrait être d'au moins 15%. Et pour voir les premiers effets d'une telle décision, il faudra attendre 2023. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
Le Tour de France, 14e étape aujourd'hui entre Carcassonne et Quillan. Victoire en solitaire du Néerlandais Bock Mollema. Mais à la veille des Pyrénées, le fait marquant de la journée, c'est le bond en avant du Français Guillaume Martin. On retrouve sur la ligne d'arrivée en direct Fanny Lechevestrier. Bonsoir Fanny.
Bonsoir Frédéric.
Et Guillaume Martin prend la 2e place au classement général.
Et oui, à dire que ce matin, on se demandait où étaient passés les Français. Eh bien, à défaut de victoire d'étape, de 2e victoire d'étape sur le Tour. Voici donc en effet les espoirs qui renaissent dans le sillage de Guillaume Martin, 2e du général après 2 semaines de course. Ce matin, le Normand pointait pourtant à la 9e place à plus de 9 minutes. Mais ce qui plaît chez le leader de la Cofidis, c'est qu'il ne se pose pas de questions et pratique un cyclisme offensif.
C'est le Tour. D'habitude, on est un peu sur la défensive. Et cette année... J'ai vraiment envie de ne pas m'embêter avec ça, prendre des risques quand je le veux. Et aujourd'hui, ça sent payant. J'espère que je ne vais pas le payer demain, mais aujourd'hui, je suis content de ma journée.
Guillaume Martin, qui a pris la bonne échappée aujourd'hui et fait un superbe rapproché. Donc au général, à 4 minutes de Pogacar, le maillot jaune, mais avec plus d'une minute d'avance sur Oran, 3e. Son manager, Cédric Vasseur, se prend à rêver et voit plus loin.
C'est un résultat fantastique. Donc avoir Guillaume comme ça, juste dans la roue de Pogacar, c'est pas ce qui peut arriver sur le Tour de France. Paris est encore loin, il reste plus d'une semaine. Donc la France attend un coureur pour le Tour de France. Et je pense qu'aujourd'hui, Guillaume nous a donné beaucoup d'émotions.
Et le Français qui se sont montrés à leur avantage aujourd'hui parce qu'il y avait Guillaume Martin, mais on a vu aussi Madouas, Paché, Gébert et Roland dans l'échappée. De quoi nous rendre impatients d'être demain dans les Pyrénées, Frédéric.
Demain, 15e étape donc de Serré dans les Pyrénées-Orientales à Andorre-la-Vieille avec encore 4 grosses difficultés au programme. Fanny Lechevestrier, merci, avec Céline Guéribi. L'Euro de football maintenant avec la Hongrie qui se fâche contre l'UEFA. L'UEFA est une instance pathétique et lâche, déclare cet après-midi le ministre hongrois des Affaires étrangères, qui n'apprécie pas du tout la sanction prise hier par l'instance dirigeante du football européen. L'UEFA a sanctionné la Hongrie pour le comportement discriminatoire de ses supporters lors de l'Euro. Des cris racistes à l'encontre des joueurs noirs de l'équipe de France notamment avaient été lancés depuis les tribunes. L'équipe hongroise va donc devoir jouer 3 matchs à huis clos. Mais aujourd'hui, l'UEFA a aussi sanctionné la Fédération anglaise de football, une amende de 30 000 euros, notamment pour des sifflets des supporters anglais durant l'hymne national danois. Bonsoir Jean-Pierre Bimaud.
Bonsoir.
Alors, durant le premier tour de l'Euro, l'UEFA avait été critiquée à plusieurs reprises sur sa gestion de la compétition. Aujourd'hui, l'UEFA ne laisse plus rien passer.
Oui, la Hongrie fâchée, mais la Hongrie a bien été sanctionnée, hein, c'est vrai, après les cris racistes entendus dans les tribunes de Budapest lors de Hongrie-France, mais aussi une banderole homophobe déployée dans ce même stade lors d'un match Hongrie-Portugal. Et c'est l'instance de contrôle d'éthique et de discipline de l'UEFA qui, cette fois, sanctionne la fédération anglaise pour ces incidents pendant les hymnes nationaux, la perturbation de l'hymne danois, par exemple, mais aussi un faisceau laser constaté lors d'un penalty, celui que les Anglais ont marqué pour se qualifier en finale, même si le gardien de but danois a indiqué qu'il n'avait pas été gêné. Alors, le contexte de ces incidents Angleterre-Danemark est évidemment moins lourd que celui des cris racistes ou de la banderole homophobe à Budapest. Il se traduit d'ailleurs dans l'échelle des sanctions prononcées par l'UEFA. 30 000 euros d'amende pour la fédération anglaise, on peut penser que c'est une goutte d'eau. 100 000 euros d'amende infligée à la fédération hongroise, c'est pas non plus très cher quand on connaît les budgets du foot, mais c'est surtout l'obligation de jouer 3 prochains matchs à domicile à huis clos pour l'équipe de Hongrie, qui est la sanction la plus importante. Mais sur le principe, on le voit, après avoir été montré du doigt pour sa décision d'interdire d'illuminer l'Allianz Arena de Munich aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole du mouvement homosexuel, l'UEFA, cette fois, ne veut pas se montrer laxiste sur des questions touchant au racisme ou même à la haine de l'étranger.
Merci Jean-Pierre Blimaud. Le Festival de Cannes, maintenant, la 74e édition se poursuit avec ce soir la présence de Catherine Deneuve sur les marches pour le film De son vivant d'Emmanuel Berco, présenté hors compétition. Au programme aujourd'hui également, deux films en compétition officielle. Flag Day de Sean Penn et Compartiment numéro 6 de l'espoir finlandais Juho Kuosmanen, un road movie dans une Russie glaciale et désertée, Alexis Demeyer.
Une jeune archéologue finlandaise qui réside à Moscou avec sa compagne se lance dans un long périple ferroviaire vers le cercle polaire pour y observer des pétroglyphes. L'étudiante partage son compartiment avec un jeune ouvrier particulièrement rustre et antipathique, mais qu'elle va apprendre à apprécier.
Ну пока. Давай всё. Вот как будет. Пока-пока. До свидания.
Hey, hey.
Compartiment numéro 6 est un film sur les rapports de classe et sur les frustrations qui naissent d'une supposée infériorité intellectuelle. C'est seulement le deuxième long métrage de Juho Kuosmanen et c'est encore parfois balbutiant. Les clins d'œil à La vie d'Adèle et à Titanic sont un peu trop évidents. L'idée du voyage initiatique n'est pas franchement nouvelle, mais on retiendra l'impressionnante direction d'acteur et la belle mise en scène avec des plans saisissants d'une Russie industrielle et enneigée. Le réalisateur finlandais fait aussi un gros travail sur la bande son qui met d'ailleurs en valeur un tube de Desireless. Voyage, voyage.
Desireless, Alexis Demeyer à Cannes. Merci. Le temps pour demain.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Michel Golinski.
Sur les régions de l'Est, les orages de la soirée seront souvent marqués mais vont rapidement décliner en cours de nuit. Demain sera en quelque sorte une journée de transition avec tout de même à remarquer l'arrivée en soirée à la fois de la pluie par la Bretagne et d'orages par le sud-ouest. Mais en journée, le soleil sera généreux dans la moitié sud et dans l'est avec un vent de secteur sud à 80 km à l'heure l'après-midi sur les Pyrénées et d'ouest vers 60 sur les côtes varoises et sur la Corse. Sur le quart nord-ouest, l'ambiance sera plus variable avec des trouées mais également un risque d'ondées notamment l'après-midi au nord de de la Loire, dans des températures maximales qui vont rester basses pour la saison sur les régions de la moitié nord, généralement entre 19 et 25 degrés de la Manche à la Loire. Il fera 27 en moyenne en Rhône-Alpes et entre 30 et 32 du sud-ouest à la Provence.
Jean-Michel Golinski de Météo France.